Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 7. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 13. Romains, chapitre 7. Nous continuons notre série dans cette lettre de Paul aux Romains, où Paul répond aux questions qui ont été soulevées par cette affirmation qu'il a faite au chapitre 6, verset 14, « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et cette affirmation a sans doute horrifié plus d'une personne avec la mentalité juive. « Vous n'êtes plus sous la loi. » Et on a vu comment certaines personnes tordaient le sens de l'enseignement de Paul. On a vu à la fin du livre des Actes, chapitre 21, verset 28, que Paul a été arrêté. Un des chefs d'accusation était que Paul prêchait contre la loi. Et Paul, au contraire, dit que non. L'Évangile n'annule pas la loi. L'Évangile confirme la loi. Même si cela semble être le cas quand il dit « nous ne sommes plus sous la loi ». Et dans ce chapitre que nous avons commencé à voir, Paul explique le sens de la loi dans le dessein de Dieu, dans la vie du croyant. Et quand il parle de la loi, il dit ceci au verset 13, « Ce qui est bon a-t-il été donc pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, le péché devienne condamnable au plus haut point. La loi n'est point péché, il l'a déjà souligné au verset 7. La loi n'est pas mauvaise, mais la loi va exposer, elle va mettre la lumière, elle va éclairer le péché qui est en moi. Elle va ramener le péché à la surface. Et parce que nous sommes pécheurs, nous nous rebellons contre la loi de Dieu qui révèle ce péché en nous. Et Paul continue donc, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, que je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Jusque-là, la parole de Dieu. Dans notre étude de cette lettre aux Romains, on a déjà utilisé une image, il y a quelque temps, l'image de gravir une montagne très haute. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait un dimanche après-midi, mais quand on veut gravir les plus hauts sommets, on va le faire en plusieurs fois. Et on va établir à chaque fois un camp de base. Et on va partir de ce camp de base, aller plus loin, établir un deuxième camp de base, aller plus loin. Si ça ne passe pas, on revient au camp de base pour revoir la situation et pour repartir, et cela jusqu'à atteindre le sommet. Et Paul fait cela dans cette lettre. Il établit un camp de base, il va plus loin, il rétablit un deuxième camp de base. Quand il y a une difficulté, il revient au camp de base. Et là, on se trouve devant un passage qui est difficile. Un passage qui pousse, un raisonnement de l'apôtre Paul qui le pousse à s'écrier à la fin de ce raisonnement, verset 24, « Qui me délivrera de ce corps de mort misérable que je suis ?» Quand on lit ce passage, quand on lit la profondeur de ce que Paul dit, l'apparente contradiction des propos de Paul, on n'est pas surpris de voir qu'il y a un très grand nombre d'interprétations de ces versets. Et la plupart des commentateurs ont essayé de répondre à la question suivante. Est-ce que Paul, dans ce passage, parle en tant que chrétien ou est-ce qu'il parle en tant que non-chrétien? Il y a certaines choses dans ces versets que seul un vrai chrétien peut dire. Par exemple, qu'il prend plaisir dans la loi de Dieu. Est-ce qu'un non-chrétien prend plaisir dans la loi de Dieu? Non. Par contre, il y a d'autres choses. Le fait de ressentir le péché, le questionnement entre ce qu'il aime et ce qu'il fait. Est-ce que ça décrit Paul avant sa conversion? Et on peut comprendre qu'il y ait plusieurs interprétations qui nous sont proposées. Mais il y a quelque chose qu'il faut se rappeler, non seulement quand on étudie ce passage, mais quand on étudie un passage difficile, c'est de revenir à cette image. Quand il y a une difficulté, quand on monte une montagne, quand on gravit une montagne, quand on rencontre une difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On revient au camp de base, on revoit de la difficulté et éventuellement, on a une autre vision de la chose. Et on regarde ce qu'on a fait, ce qu'on a accompli, on regarde où on est arrivé, et on peut avoir une autre perspective sur la difficulté. Et on a déjà dit que le tableau que Paul nous a dressé est celui-ci. C'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ça, il l'a dit au début, chapitre 1. Et on en a besoin parce qu'on manque de puissance. On n'a pas la puissance. On est condamné devant Dieu. C'est le thème des trois premiers chapitres. La justice de Dieu est révélée du ciel dans les termes de sa colère contre l'injustice, sa colère contre l'iniquité. Par nature, nous sommes condamnés par la loi de Dieu. Nous sommes sous le jugement de Dieu. Nous sommes sous l'emprise du péché. Mais Paul termine le chapitre 3 avec ce changement dans son argumentation. Mais maintenant, 3:21, et ensuite plus loin, Paul va souligner que Dieu a pourvu le moyen de salut pour nous. Toute la colère de Dieu qui était dirigée contre mes péchés a été déversée sur le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et le Seigneur Jésus-Christ a vidé cette colère que Dieu avait contre moi. Il a tout pris sur lui. Si je suis en Christ, je ne suis plus sous la colère de Dieu. J'ai été délivré de cette colère de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est la propitiation. Il a vidé la colère que Dieu avait contre nous en subissant cette colère lui-même. Il est aussi notre rédemption. Nous étions sous l'esclavage du péché. Le péché était notre roi, était notre tyran. Mais en Christ, nous sommes morts au règne du péché. Christ nous a rachetés pour que nous vivions pour lui, notre nouveau roi. Christ est notre propitiation, notre rédemption, mais il est aussi notre justification. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ nous sauve de la colère de Dieu. Il nous sauve du règne du péché. Il nous sauve aussi de la condamnation de la loi. Nous sommes justifiés par la foi. Et puis Paul, au chapitre 6, nous a dit que si nous sommes déjà délivrés du règne du péché, nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché. Et il y a donc un conflit chez le croyant. Il y a un conflit chez le chrétien. Nous sommes libérés du règne du péché, mais nous ne sommes pas encore délivrés de la présence du péché, ce qui n'arrivera qu'au jour où le Seigneur nous prendra avec lui dans la gloire. Et aussi longtemps que ces choses sont vraies, Paul nous dit que nous sommes appelés ici-bas à combattre le péché, comme il le dira plus tard au chapitre 8, verset 13, à faire mourir les actions du corps. Et le chrétien le fait par la grâce de Dieu, par la puissance et l'aide de l'Esprit-Saint. Et il peut le faire, comme Paul l'a dit au verset 14 du chapitre 6, parce qu'il n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Si nous restons sous la loi, si nous sommes tenus d'obéir à la loi, mais nous ne pouvons pas obéir à la loi, parce que la loi est sans force. Mais quand on est sous la grâce, libéré de la loi, nous sommes libérés pour combattre le péché. Et Paul a souligné, nous l'avons vu, que cela ne veut pas dire que la loi est mauvaise, que la loi est péché. Mais Paul dit, ce que j'ai découvert, c'est que la loi de Dieu éclaire la pollution de mon cœur. Et qu'en éclairant la pollution de mon cœur, l'odeur du péché va envahir toute ma vie. Et aussi longtemps que je vivrai, cette loi qui éclaire la pollution de mon cœur ne pourra jamais me délivrer de cette pollution. La loi ne pourra jamais me délivrer de cette pollution. Dieu n'a jamais donné sa loi pour me délivrer de la pollution de mon cœur. On entend parfois certaines personnes dire « Je vais faire un peu plus d'efforts, je vais essayer de garder la loi de Dieu. » Et on a envie de leur répondre « Mais la loi ne peut ni vous sauver, ni vous délivrer. » Parce que la loi ne possède pas la puissance en elle pour faire ce qu'elle commande. Seul le Seigneur Jésus-Christ possède cette puissance. Et c'est pour ça que l'invitation, ce n'est pas de venir à la loi, mais c'est de venir à Christ. C'est lui qui nous rachète et c'est lui qui nous donne cette vie nouvelle, cette puissance pour le servir, pour sa gloire. La loi n'est pas péché, mais comme Paul le dit au verset 13, la loi n'apporte pas la mort, c'est le péché en moi qui apporte la mort. Et on a dit la dernière fois que Paul fait ici quelque chose d'étonnant. Dans ce passage de verset 14 à 23, il n'y a qu'une seule fois où Paul n'utilise pas le présent. C'est étonnant, parce que dans la première partie du chapitre, Paul n'a parlé qu'au passé. Verset 8, « Le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. » Verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. » Verset 11, « Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. » Tout ça, c'est au passé. Paul parle de lui-même, parle de son expérience au passé. Et sans nous avertir, au verset 14, et jusqu'à la question du verset 24, au futur, qui me délivrera de ce corps de mort, tout ce qu'il dit est au présent. Et l'autre chose d'étonnant dans ce passage, c'est qu'il ne parle qu'à la première personne du singulier. Le pronom qu'il utilise toujours, c'est « je ». On a donc une dizaine de versets où tous les verbes sont au présent et tous les pronoms sont en fait le premier pronom personnel au singulier. Et si on tombait sur un tel passage dans n'importe quel livre, on arriverait aux conclusions suivantes. L'auteur ici parle de lui-même et l'auteur parle de sa condition, de sa situation présente, sa situation actuelle. Mais quand on lit ce que Paul dit, il y a des choses qui nous font poser des questions. Quel genre de personne est en train de parler ici? Quand on lit le verset 14, par exemple, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Une question pour nous, quand est-ce que nous avons dit ça la dernière fois de nous-mêmes? Je suis charnel, vendu au péché. C'est une affirmation qui est plutôt radicale. Et comment réconcilier ça avec ce que Paul a dit au sujet du croyant qui est délivré du règne du péché? Prenons un autre exemple, versets 18 et 19. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Versets 23 à 24. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Est-ce que Paul se contredit dans ces versets? Est-ce que Paul parle comme un chrétien qui a chuté, comme certains l'enseignent? Est-ce que Paul parle ici du point de vue de l'Évangile, mais il regarde au passé comme un croyant de l'Ancien Testament qui ne connaît pas tout au sujet du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que Paul décrit ici ce qui s'est passé lorsqu'il lui-même est devenu chrétien, c'est-à-dire cette lutte que beaucoup de personnes connaissent? Des personnes qui sont touché une première fois par l'Évangile et dont la première réaction est de dire « Je vais essayer d'être meilleur, je vais essayer d'obéir. » Et puis, plus elles essayent d'obéir au Seigneur Jésus, plus elles réalisent que leur tentative échoue. Et cela les pousse au désespoir où elles s'écrient « Misérable que je suis incapable de m'élever au niveau de sainteté que Dieu exige. » Et puis finalement, ces personnes découvrent l'Évangile, découvrent que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui les délivre. D'autres ici vont dire, non, ici c'est Paul qui est le chrétien mûr, le chrétien qui a atteint un certain niveau spirituel. Et ces personnes disent, ben, si vous ne pouvez pas vous décrire dans les termes qu'utilise l'apôtre Paul ici, vous ne connaissez rien au sujet de la maturité spirituelle. On a donc toutes sortes d'approches de ce passage. Et toutes ces approches, en fait, elle se focalise sur une question. Qui est cet homme qui parle et qui dit « misérable que je suis ». Mais quand on pose cette question et quand on a toutes ces réponses, il est peut-être sage alors de prendre du recul et de poser une autre question. Est-ce qu'il n'y a pas une question plus importante dans ce passage? Est-ce qu'il n'y a pas une question plus importante que la question « qui est cet homme ?» dans ce passage? Et pour reprendre l'image qu'on a utilisée plus tôt, c'est peut-être le moment de reculer vers le camp de base pour voir la difficulté sous un autre angle. Et quand on fait ça, quand on prend le recul, on réalise que Paul n'a aucune difficulté avec l'identité de celui qui parle dans ce chapitre. Parce que la question principale de ce chapitre est la suivante. Quel est le rôle de la loi que Dieu a donnée? Ça, c'est la question de ce passage. Ça, c'est la question à laquelle Paul répond dans ce chapitre. Quel est le rôle de la loi, y compris, bien sûr, quel est le rôle de la loi dans la vie du chrétien? Et quand on lit ce passage en partant de ce camp de base, en partant de ce point de vue, on commence à voir quelque chose. Il y a un parallèle assez étonnant entre ce que Paul dit en Romains 6 et ce qu'il enseigne ici en Romains 7. En Romains 6, rappelez-vous, Paul a dit, chers amis chrétiens, comprenez qu'en Christ, vous êtes morts au péché. Mais le péché n'est pas encore mort en vous. Et aussi longtemps que cela est vrai, il va y avoir une bataille, un conflit spirituel dans votre vie. Et ici, au chapitre 7, Paul dit ceci, en Christ, tout comme vous êtes morts au péché, ce que nous avons vu au chapitre 6, ici, Paul dit, maintenant vous êtes aussi morts à la loi. Et nous sommes très loin d'être parfaits selon les exigences de la loi. Et aussi longtemps que cela est vrai, le croyant va trouver que la loi va faire durant toute sa vie ce qu'elle a fait dans la vie de l'apôtre Paul et ce que Paul nous a décrit dans les versets 7 à 12, à savoir que la loi ne va jamais cesser d'exposer mon péché. Et bien que je sois justifié par grâce, par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, je reste un pécheur. le péché est encore présent. Le péché ne s'est pas transformé en quelque chose d'agréable simplement parce que je suis devenu chrétien. Quand je regarde à la bonté, la sainteté, la spiritualité de la loi de Dieu, comme l'apôtre Paul le décrit ici, quand je laisse la loi de Dieu me sonder, il est alors inévitable que je ferai miennes les paroles de Paul. Ce que cela veut dire, c'est ceci. Paul parle effectivement de lui-même, mais il se décrit comme un chrétien ordinaire. Il ne dit pas tout ce qu'il pourrait dire à son sujet. Il ne décrit ce qu'il découvre quand il plonge les regards dans la sainte loi de Dieu. Cette loi qui est une expression du caractère de Dieu. Et cette loi va révéler même les contradictions, même chez les meilleurs chrétiens. Paul est un serviteur de Dieu. Paul est grandement utilisé par Dieu. Paul lui-même va se décrire comme le premier des pécheurs. 1 Timothée 1, verset 15. Il ne se décrira jamais comme le premier d'entre les saints. Paul nous donne ici le portrait du premier des pécheurs et en fait le portrait de tout chrétien quand la loi nous expose pour ce que nous sommes réellement, des pécheurs justifiés. Comme Martin Luther le disait, simultanément justifiés et pécheurs. En même temps, justifié par grâce et pécheur. Paul ne nous dit pas tout au sujet de la vie chrétienne, mais ce qu'il nous dit ici est important. Alors que nous avançons dans la vie chrétienne, une des choses que nous découvrons, c'est que la révélation que Dieu nous a donnée de lui-même dans la loi, mais aussi dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, cette révélation vient exposer tous nos manquements, toutes nos fautes, la perversion de notre péché. Cela va creuser au plus profond de nous-mêmes et révéler ce qu'il y a au plus profond de nous. Il n'y a pas de contradiction dans les propos de Paul. Non, Paul dit qu'il y a un genre de contradiction dans ce que je suis. Et pour comprendre cela, on va mettre en face ce que Paul dit ici, chapitre 7, verset 20, « Le péché habite en moi. » Et on va mettre en face ce que Paul dit en Colossiens 1, verset 27, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Et les deux choses sont vraies pour le chrétien. Le Seigneur de gloire habite dans le cœur du croyant, mais le péché habite encore en nous. Et aussi longtemps que cela est vrai, la loi de Dieu va éclairer la vie du croyant, elle va révéler tout ce qui est mal, elle va amener le croyant parfois à des moments insupportables où il va s'écrier comme l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul nous dit ici, « Quand vous regardez la face de Dieu, votre Père, telle que Il se révèle dans sa loi. Il y a des moments où vous ne comprendrez pas. Le bien que vous voulez faire avec ce cœur renouvelé, vous ne le faites pas. Ce que vous ne voulez pas faire, vous le faites. Vous aurez l'impression d'être encore esclave du péché. Mais rappelez-vous, vous avez été libéré de l'esclavage du péché. Vous êtes libre de la condamnation de la loi. Même si la loi continue d'exposer votre péché et votre manquement. Et le croyant va regarder au Seigneur Jésus-Christ, va lui dire, Seigneur, je t'appartiens, mais je n'arrête pas de chuter, je trébuche, je tombe sans arrêt. Quand me délivreras-tu de ce corps de mort? Et il sait qu'un jour vient où il sera réellement, effectivement délivré. Et Paul va arriver à cette conclusion Verset 25, « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Ça, c'est un survol de cette partie de ce chapitre 7. On reviendra sur ces versets du volant la prochaine fois. Mais qu'est-ce que l'on peut dire? Qu'est-ce que l'on peut dire comme application? Déjà, rien qu'en survolant ce passage. Tout d'abord, la première chose à dire, c'est que nous devons apprendre que tout comme la loi ne peut pas justifier le pécheur, la loi ne peut pas non plus sanctifier le croyant. Certains ont essayé, avant d'être chrétiens, de faire tous leurs efforts pour se justifier en cherchant à obéir à la loi de Dieu. Et par la grâce de Dieu, ils ont compris qu'il n'y a pas de justification de cette façon-là. Mais une fois devenues chrétiennes, ces personnes ont commencé à dire « Je ne pouvais pas être justifié par mon obéissance à la loi, mais peut-être je peux être sanctifié par mon obéissance à la loi. » Et nous devons nous rappeler que la loi n'a aucune puissance pour nous transformer, que ce soit avant notre conversion ou après notre conversion. La loi n'a aucune puissance pour nous transformer. Ce n'est que la grâce de Dieu en Jésus-Christ qui me transforme. Ce n'est que lui, par son esprit, qui me fait avancer. Et c'est donc à lui que nous devons regarder. C'est à lui que nous demandons la puissance de lui obéir, d'obéir à sa parole. Ce n'est pas à la loi, parce qu'elle ne peut pas. On a déjà cité le voyage du pèlerin, et je vous invite à le lire ou le relire, parce que c'est tellement beau. Et à un moment, le pèlerin chrétien rencontre un personnage nommé interprète. Et celui-ci va le conduire dans une pièce qui est remplie de poussière. Et l'interprète va appeler un serviteur pour balayer cette pièce. Et dès que le serviteur commence à balayer, vous savez ce qui va se passer. La poussière envahit la pièce au point où chrétien est presque étouffé. Et puis, une jeune fille apporte de l'eau, va arroser la chambre. Bien sûr, la poussière tombe et elle est nettoyée. Et chrétien demande à l'interprète, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Voilà la réponse d'interprète. Cette pièce représente le cœur d'un homme qui n'a encore jamais été sanctifié par la grâce de l'Évangile. La poussière, c'est le péché naturellement attaché à sa nature, qui souille l'homme tout entier depuis les plantes des pieds jusqu'au sommet de la tête. Celui qui a balayé le premier, c'est la loi. Mais la personne qui a apporté de l'eau et qui a arrosé la pièce représente la grâce de l'Évangile. Vous avez vu que lorsque l'homme a commencé à balayer, la poussière s'est levée de tous côtés sans que la place ait pu être nettoyée et que la poussière a failli vous étouffer. Ceci nous montre que la loi, bien loin de purifier le cœur de l'homme, ne fait que rendre le péché plus vivant et plus puissant, de sorte que plus elle découvre et le défend, plus elle l'augmente en réalité, car elle ne donne pas les forces pour le surmonter. Cette jeune femme, cette jeune personne qui est venue arroser et qui, par ce moyen, a réussi à nettoyer complètement la chambre, vous offre une image de l'Évangile qui répand ses douces influences dans le cœur. Sous son action, le vice s'est abattu et surmonté, comme la poussière l'a été par l'eau dont on a arrosé la chambre. Par la foi en l'Évangile, le cœur est purifié et mis en état d'hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas à la loi qu'il faut regarder. La loi ne peut pas, n'a aucune puissance pour me transformer. La loi n'a aucune capacité de me faire avancer dans la vie chrétienne, elle ne peut pas m'aider à combattre le péché. Il faut regarder à celui qui nous a justifiés, c'est-à-dire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous sanctifie. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est ceci. Si nous rêvons d'une vie chrétienne sans avoir conscience de l'existence du péché en nous, alors oublions ce rêve. Ce genre de vie chrétienne n'existe pas. Mais si nous sommes conscients, si nous saisissons cette réalité que nous sommes justifiés, mais encore pécheurs, nous serons plus prompts à nous pardonner réciproquement. Et la troisième chose à noter, c'est ceci. Quel est le résultat final de tout cela? C'est que l'Évangile ne nous laisse jamais dans la poussière. Misérable que je suis, dit l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais ça, ce n'est pas les mots de la fin. Puisque Paul continue, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a une illustration de cela dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Ésaïe, l'homme, on va dire, le plus pieux de Jérusalem, entre dans le temple. Le plus grand prédicateur à Jérusalem entre dans le temple. Et la sainteté de Dieu envahit le temple. Ésaïe voit cette sainteté de Dieu, cette même sainteté que Dieu révèle dans sa loi. Et qu'est-ce que le prophète dit? Qu'est-ce que est le cri du prophète? Un prophète de Dieu, quelqu'un qui a été transformé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais dans la présence de la sainteté divine, Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu ». Et comment est-ce qu'il le ressent? Il le ressent là où Dieu l'a béni, là où Dieu l'a transformé. Ce n'est pas les lacunes d'administration qui le poussent à s'écrier ainsi. Non, c'est là où Dieu l'a béni, là où Dieu l'a transformé, c'est-à-dire ses lèvres, sa bouche, là où Dieu lui avait accordé le don d'annoncer la révélation, la parole de Dieu. Il s'écrie « Je suis un homme dont les lèvres sont impures ». Une autre version de « misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais Ésaïe ne s'arrête pas là non plus. Parce que Ésaïe 6, verset 6 nous dit « L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel, avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » Et Ésaïe va continuer à servir le Seigneur. Il a vu le Seigneur en image qui annonçait sa venue. Nous voyons le Seigneur sur la croix, manifestant son amour pour nous, en mourant à notre place pour nous amener à la gloire éternelle. Nous devons sans cesse regarder à lui et à lui seul. Oui, nous devons ressentir l'exposition de nos péchés par la loi que Dieu a donnée. Parfois, ça peut être une expérience douloureuse, parce que nous sommes remplis de nous-mêmes, parce que nous sommes remplis de nos plans, de nos stratégies, de nos dons, même de notre sentiment d'être utile. Mais celui qui est amené à descendre dans les profondeurs pour voir la noirceur de son cœur, pour voir le péché qui est dévoilé par cette sainte loi de Dieu, va s'écrier avec Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Mais il va aussi voir le Seigneur dans toute sa gloire. Et il peut se réjouir de savoir non seulement qu'il est aujourd'hui déjà libéré de la condamnation de la loi, mais un jour il sera libéré de la présence même du péché. Grâce soit rendue à Dieu. C'est à Christ que nous devons regarder. C'est lui qui a la puissance de nous délivrer. C'est lui qui est tout, qui est notre tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La loi, elle est sans puissance. Elle va exposer mon péché. Elle va exposer mon incapacité à plaire à Dieu. Et c'est à Christ qu'il faut aller, parce que lui nous délivre. Lui seul nous délivre et nous transforme. Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre cela, à méditer sur ces choses, à comprendre cette liberté dans laquelle nous sommes entrés par le Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il nous aide à nous appuyer sur ce qu'il a fait en Christ. Qu'il nous aide à regarder à Christ. Il n'y a personne d'autre. Pas à la loi, pas à quelqu'un d'autre, mais à Christ qui est notre tout. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.